Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un des textes pour la prédication. C'est dans Lévitique 25, les versets 8 à 25. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère.
Et dans Luc 12, les versets 16 à 23 et 29 à 32. Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se disait en lui-même, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder mes récoltes. » Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Puis Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent continuellement tout cela. Mais vous, vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste.
Et puis Jésus, en commençant son ministère, Luc chapitre 4, en se rendant à Nazareth, en recevant le rouleau, choisit le texte suivant en Ésaïe, Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Ensuite, il roula le livre, rendit aux servants et s'assit. Et dans la synagogue, tous les yeux étaient fixés sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Le mois passé, nous avons regardé un passage dans l'Évangile qui parle des dettes remises. Et j'avais l'hardiesse de dire que Dieu ne sait plus compter. Il ne sait plus compter nos dettes. Sept fois, non, Dieu ne sait plus compter. Et puis voilà ce matin que nous ouvrons nos lectures avec un passage qui parle de sept fois cette année, et puis encore une année de plus, 50 ans, le jubilé, et puis le texte précise encore le 10e jour du 7e mois. Et je dis, Dieu ne sait pas compter. Alors je vous ai fait remonter dans le temps quand Dieu savait encore compter, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'aborde le sujet du jubilé ce matin? Parce que à la sortie du culte, la dernière prédication, on m'a provoqué en disant, alors maintenant, dans mon entreprise ou dans nos entreprises, il faut simplement remettre toutes les dettes. Et puis, il y avait aussi une prière qui est exprimée dans ce culte-là, c'est-à-dire que par rapport à la remise de nos dettes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à entendre concernant les pays du Sud qui s'écroulent sur les dettes? Alors j'aimerais, suite à ces remarques, revenir sur le sujet en disant, mais est-ce que Jésus se préoccupait que du spirituel? Ou est-ce que Jésus se préoccupe que du matériel? Quel est l'esprit jubilaire que Jésus va évoquer au début de son ministère? Le jubilé, si ça semble très compliqué pour vous, deux aspects, la remise des dettes d'un côté et retourner dans son héritage de l'autre côté. Mais certains diront, oui, c'était pour une époque reculée. C'était pour une société agricole. Rien à nous dire aujourd'hui. Ou d'autres diront, oui, c'est bien beau, mais dans mon entreprise, c'est impraticable. Faut pas rêver. Ou est-ce qu'il y a des principes à dégager pour toute culture et pour toute époque? Qu'est-ce que Jésus a voulu évoquer en annonçant d'entrer en matière l'année de la faveur de l'Éternel, La référence est claire, il évoquait l'année de jubilé. Alors j'aimerais, dans un premier temps, vous rappeler ce que vous savez. Jésus n'a pas été parachuté sur terre à l'âge de 30 ans. Notre spectacle de Noël nous a rappelé qu'il y avait un beau bébé qui est né à un moment donné. Et puis ce bébé a grandi et il est entré dans l'atelier et la profession de Joseph, mari de Marie. Et il a pris la profession de charpentier. Charpentier, à nos oreilles, c'est un peu restreint, parce que ça comprenait non seulement des travaux en bois, mais aussi souvent en pierre, d'autres matériaux de construction. Il était donc sollicité pour fabriquer ou réparer des outils pour travailler dans les champs. Fabriquer des meubles, mais aussi des constructions beaucoup plus importantes, des bateaux, des bâtiments dans les grandes villes. Donc j'aimerais vous suggérer que dans la vingtaine, Jésus n'est pas resté coincé dans l'atelier. Sans doute, il a dû se déplacer avec ses outils, à la recherche d'embauches, dans les fermes, au bord du lac de Galilée, dans les grandes villes même, jusqu'à Jérusalem peut-être. Jésus, on le voit, attendant sur les places des marchés, et il attend les déceptions de ceux qui sont là, qui attendent d'être embauchés pour ce jour-là, pour pouvoir manger ce soir-là. Il entend les plaintes des endettés quand il est le long du chemin. Est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Il a vu le dur travail dans les champs, dans les vignes, et l'exploitation que trop courant qui garantissait que les gens qui avaient perdu leur terre n'allaient pas les retrouver et n'auraient pas, surtout pas, de quoi ensemencer pour une prochaine récolte. Il a subi lui-même les exigences des collecteurs d'impôts, certains corrompus. Et il a vu ses grands propriétaires et les hommes hyper riches, absents, confortablement installés à Jérusalem. Peut-être qu'il a rencontré un fils qui, lui, avait cherché la belle vie dans la grande ville et qui est tombé sur des temps difficiles. Ou il a entendu la douleur des parents dont leur fille avait été vendue à la prostitution, pour essayer de rembourser des dettes qui ne diminuaient pourtant jamais. La Palestine, au premier siècle, pas toujours très jolie à voir. Et Jésus a regardé les foules et il en était touché par compassion, parce qu'ils étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. L'esprit jubilaire, il ne l'observait pas beaucoup, peut-être chez un Samaritain ou chez un publicain au temple. Mais dans l'ensemble, le cri montait. Pour quand la fin de l'oppression? Pour quand cette liberté promise? Pourquoi tant de tourments, tant d'inquiétudes? Donc, de retour à Nazareth, autour de la trentaine, Jésus pose les outils de son métier les range à l'atelier et passe devant là où il a travaillé les 10-15 dernières années, un jour de sabbat pour se rendre, comme c'était son habitude, à la synagogue. Lui, invité à faire la lecture, il déroule le parchemin et annonce que l'année de jubilé est enfin arrivée. Cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. La pratique du jubilé était tombée à l'oubli déjà de l'époque de Salomon, on pense, et d'ailleurs Samuel avait averti les gens qui voulaient un roi que tout allait se perdre avec cette démarche-là. Mais c'est de cette année favorable, l'année de faveur de l'Éternel, que Jésus veut parler. Donc, je vous rappelle, des gens qui avaient été obligés à vendre leurs terres ou se vendre eux-mêmes, voilà qu'ils retrouvaient pleine liberté et leur héritage. Chaque 50e année, deux fois par siècle. C'était dans le but d'arrêter la spirale descendante des dettes. Les Grecs seraient très heureux si cette loi-là était appliquée. Si une génération était tombée bas, c'était pas pour que la génération suivante soit obligée d'y rester. Donc, deux choses j'avais dit, la remise des dettes et le retour dans son héritage. Mais est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? C'est-à-dire qu'il était venu pour appliquer à la lettre l'année jubilaire. Non, il évoque pour dire, mais voilà l'esprit de ce que je suis venu dire et faire. Il était très touché par la situation économique du pays, oui, mais sa réponse n'est pas simplement des solutions agronomes, etc. Plutôt, il a annoncé le début d'un nouveau royaume qui est symbolisé par les images du jubilé. La remise des dettes, économique, oui, mais avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire une dimension spirituelle, relationnelle. Donc, le relâchement d'esclavage de toutes sortes, un retour dans une vie qui vaut la peine, avec Dieu et avec nos semblables. Voilà le royaume qu'il est venu inaugurer. Donc, de quoi Jésus va parler? Il va parler dans un rassemblement des gens bien pensants, de personnes qui ont vécu la remise des dettes. Pour les uns, c'était 500 jours de travail, mettons 2 ans. Pour les autres, c'était 2 mois, 50 jours de travail. Et voilà qu'il y a une femme prostituée dans la compagnie qui a découvert que cette remise des dettes concernait pas que les dettes matérielles, mais aussi des dettes dans le domaine spirituel. Tes péchés te sont pardonnés. Il va parler des démunis qui sont surpris par un vigneron super généreux. ces saisonniers, ouvriers, journaliers, qui reçoivent beaucoup plus qu'ils n'attendent. Où il va parler de la générosité inattendue d'un escroc qui s'appelle Zachée. L'esprit jubilaire est entré dans sa maison. Je vais donner à ceux et celles que j'ai trompés, eh bien, 4 fois plus que je ne l'ai pris. Et la moitié de ma fortune, je la consacre aux pauvres. Par contre, il va rencontrer un jeune homme riche qui va rester dans sa tristesse parce qu'il va rester sous l'emprise des valeurs courantes, matérielles. Il va rester captif, lui, d'un autre royaume, ou une multinationale, on pourrait dire, dont le patron s'appelle Mammon. Pas Mammon, mais Mammon. Mais, par contre, il va louer un gérant, filou, qui voit dans l'argent pas une fin en soi. Tu dois 40 hectolitres d'huile d'olive à mon patron. Vite, inscris 20. Et c'est combien de sacs de blé qui est sur ta facture? 500? Mais il faut mettre 400. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Louer la malhonnêteté? Le propriétaire, lui, ne peut pas réclamer parce que, très probablement, sur la facture a été ajouté année en année les intérêts qui étaient illégaux, qui ne devaient pas avoir lieu dans la loi. Jésus est venu avec des idées révolutionnaires, mais il n'a pas prôné la révolution. Oui, donner à César ce qui est à César. Mais si, quelque part, c'est une révolution, parce que c'était abandonner un système corrompu, celui-là, pour adopter un autre, un royaume où la justice et la paix peut régner. Et ça peut commencer dès maintenant, dit Jésus, un samedi dans une synagogue à Nazareth. Un citoyen à la fois. Je crains que certains d'entre vous disent, mais c'est un idéal, mais c'est illusoire. J'aimerais rappeler que, au début de ce 21e siècle, il y avait une campagne du jubilé. C'était le titre. C'était un groupe qui a milité pour la remise des dettes des pays qui n'arrivaient même pas à payer les intérêts des dettes. Et dans un journal réputé, il y avait quelqu'un qui écrit ceci. Qui a dit que la religion est morte et qu'il n'y a pas de Dieu? La campagne du jubilé de 2000 est la campagne la plus efficace qui a jamais eu lieu. La remise des dettes impayables que doivent les pays les plus pauvres de notre monde. Ça, c'est endetté, ce succès, à l'inspiration de la Bible. Je doute, écrit l'auteur de l'article, que pas plus que moi, vous connaissez les livres de l'Ancien Testament, de Lévitique, Exode ou Deutéronome. Mais sans ces livres, il n'y aura pas eu de campagne de jubilé. Les principes énoncés ont assailli les principes jusque-là inattaquables de la grande finance internationale. Et l'article va continuer à dire que la Bible est sans ambiguïté, que Marx et Das Kapital a l'air banal par rapport à ce qui s'y trouve concernant les lois d'égalité. Donc, il y a des possibilités que ça change. Mais disons-le tout de suite, c'est pas simple. Nous avons tous probablement expérimenté. Si quelqu'un vous demande, ne le refusez pas. Habitant dans les locaux des églises, près de Lyon et puis ailleurs, souvent sollicité. Que d'expériences, d'histoires à compter, pas avoir de l'argent. Même quelqu'un, un ami qui avait demandé un emprunt assez important, qui il ne remboursait pas. À un moment donné, la liberté pour moi, c'était de tirer un trait dessous, de l'oublier. Les Roms qui sont à la sortie de nos supermarchés, à la sortie de nos lieux de culte, comment réagir? Ce sont des défis qui sont devant nous tous. Nous y réfléchissons au niveau du conseil, vous le savez, on désire un forum à ce sujet. Comment réagir dans l'esprit jubilaire avec sagesse? Il y a des choses que nous pouvons faire. Et peut-être, plus que de donner quelques pièces, notre réflexion va dans le sens de soutenir le travail au Liban parmi les enfants roms, gitans, pour leur donner une éducation. Quelque chose dans le plus long terme, plutôt que simplement coup par coup. Il y a Stop Pauvreté, avec le livre qui est proposé pour nos groupes de maison. Une sensibilisation à l'esprit jubilaire que Jésus est venu introduire. Mais j'aimerais conclure en rappelant que Jésus, pour Jésus, c'était important, pas que spirituel, aussi économique, et il ouvre son ministère avec l'annonce, la référence à l'année de jubilé. La libération, je cite, de tous les habitants. Les dettes remises. Un héritage perdu, retrouvé. Dans sa vie et dans son enseignement, Jésus répand l'esprit jubilaire. Et c'est une bonne nouvelle, c'est pas que deux fois par siècle. C'est une bonne nouvelle à saisir et vivre, une attitude de cœur qui déborde dans nos relations sociales, mais aussi économiques. Donc Jésus prend le texte en Luc 4 et dit, mais pour les cœurs brisés, il y a maintenant une voie de guérison. Pour ceux qui sont pris en captivité par des dettes de toutes sortes, j'ouvre des espaces larges de liberté. Maintenant, ces espaces vous sont ouverts. Premièrement, parce que notre proche parent lui-même nous a rachetés de toute dette. Jésus, le Fils de l'homme. Il a tout payé. Aveuglé par ce qui est miroité comme bonheur, nos yeux maintenant sont ouverts à des réalités d'un autre royaume, une autre manière d'être et d'agir. Nous étions opprimés, maintenant nous sommes libres et nous pouvons libérer d'autres, spirituellement et économiquement. En résumé, nous sommes de retour dans la maison du Père, l'héritage retrouvé. Nous sommes dans l'année de grâce 2012. Et c'est qu'un début. L'année jubilaire s'étend, continue, d'année en année, jusque dans toute l'éternité. Là-haut, la fête bat son plein. Dehors, ici-bas, la situation s'endurcit de plus en plus. Jésus nous invite d'entrer. Tout est prêt.